journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un point sur les combats qui s'intensifient en Libye, au sud de Tripoli, contre-offensive en cours des forces du gouvernement d'Union nationale. Le récit du coup de force à Kaboul d'un commando armé, assaillant abattu, 7 morts selon un dernier bilan. Le rapatriement de Syrie de 110 ressortissants kosovars, précision d'Audrey Tison. Nous serons enfin en ligne avec Yann Gallick, place de la République à Paris. Yann qui suit des gilets jaunes participant à l'une des deux manifestations parisiennes autorisées. Les détonations des pilonnages à l'arme lourde claquent jusque dans le centre de Tripoli. Au petit matin, les troupes du gouvernement d'Union nationale ont lancé une contre-offensive visant les effectifs du maréchal Haftar qui, depuis 2 semaines, tente de prendre le contrôle de la capitale libyenne. Bonsoir Antoine Geoffin.
Bonsoir.
Antoine, le front se situe dans les faubourgs sud de Tripoli.
Ce sont les positions militaires de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar qui ont été visées. 7 frappes aériennes, notamment au sud de Rarian, une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tripoli, ainsi que contre la base aérienne d'Al-Wotia, 50 kilomètres plus loin. Après plusieurs jours de combats de faible intensité entre les deux camps et de statu quo sur le front, c'est un cap qui a été franchi avec l'emploi de roquettes et d'obus. L'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, qui tient l'est du pays, assure que ses forces progressent, qu'elles vont recevoir des renforts et que les milices de son ennemi reculent sur tous les fronts. Dans la coulisse internationale, on s'affaire toujours pour tenter de trouver une sortie au conflit dans ce pays ô combien stratégique du fait de ses richesses, notamment son pétrole. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunissait et la Russie et les États-Unis mettaient leur veto à un projet de résolution britannique. Ce texte réclamait un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli. Hier, la Maison-Blanche annonçait que Donald Trump et le maréchal Haftar avaient échangé dans la semaine par téléphone. Le président américain a reconnu, je cite, le rôle significatif du maréchal Haftar dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. La France, elle, soutient toujours le gouvernement légitime d'Union nationale de Fayez al-Sarraj et travaille avec son allié italien à des initiatives sur la Libye. La crise peut devenir dangereuse car les éléments d'une détérioration sont là, disait hier à Rome le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, aux côtés de son homologue italien. Dans son dernier bilan, enfin, l'OMS estime que les combats en Libye ont fait au moins 213 morts et 1000 blessés depuis le 4 avril.
Merci à vous, Antoine Geoffin. Bagdad, terre de médiation. Les autorités irakiennes ont convié aujourd'hui les chefs des parlements de leurs voisins avec pour objectif de tenter d'apaiser les tensions entre ennemis jurés, l'Arabie saoudite et l'Iran ou encore l'Arabie saoudite et la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 50 soldats et combattants fidèles au régime syrien ont été tués ces dernières 48 heures dans une série d'attaques menées par des djihadistes dans les provinces de Homs et de Deir ez-Zor. L'organisation État islamique, qui ne peut plus se prévaloir de régner sur un califat, multiplie attentats et embuscades, faute de troupes. Les uns sont morts au combat, les autres se sont rendus. Quel sort justement réservé à ces derniers? Quel futur proposé aux familles de ces djihadistes? Il faut, pour tenter de répondre à ces questions, se tourner vers Pristina. Les autorités kosovares ont en effet assuré le rapatriement de Syrie de 110 de ses ressortissants. Bonsoir Audrey Tison.
Bonsoir.
Audrey, qui sont ces ressortissants kosovars?
Ce sont surtout des femmes et des enfants qui étaient à bord de cet avion, épouses et enfants de djihadistes. Ils ont été conduits dans un centre de rétention, d'ordinaire réservé aux migrants, pour des examens médicaux. Ils auraient subi de graves traumatismes d'après les services qui les ont pris en charge. Ces civils méritent une réhabilitation et l'espoir d'une vie paisible et loin des conflits, a déclaré le ministre kosovar de la Justice, tandis que le président a appelé leur entourage à les aider à réintégrer la société aussi vite que possible. Dans cet avion en provenance de Syrie se trouvaient aussi 4 hommes, soupçonnés d'avoir combattu avec l'État islamique. À peine avaient-ils posé le pied sur le tarmac de l'aéroport qu'ils ont été inculpés pour participation à des conflits à l'étranger. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Cette peine maximale a récemment été durcie au Kosovo. Les autorités estiment que 300 Kosovars sont allés combattre dans les rangs de Daesh en Syrie et en Irak. C'est le plus gros contingent européen, si on le rapporte à la population. 70 hommes y auraient perdu la vie, 120 en sont déjà revenus, la plupart ont été incarcérés. Ce rapatriement de la nuit dernière est le plus important en nombre jamais réalisé en Europe. Il a été été salué par les États-Unis par la voix de son ambassade. C'est un exemple important et à suivre pour la communauté internationale, dit le communiqué. Message non voilé adressé à d'autres pays européens comme la France.
Merci à vous, Audrey Tison. À Kaboul, les assaillants qui ont pénétré ce matin dans le ministère des Communications ont été abattus, tout comme l'auteur d'un attentat suicide à proximité de l'un des principaux hôtels de la capitale afghane. Au moins 7 morts, il y aurait plusieurs blessés. Les talibans nient toute implication. Cela faisait plusieurs semaines qu'un calme relatif régnait dans la capitale. Les précisions à Kaboul de Sonia Ghezali de RFI.
Il est 11h40 quand une explosion retentit à l'entrée du ministère des Communications, un bâtiment de 18 étages situé à un carrefour très fréquenté de la capitale afghane. Un kamikaze vient de se faire exploser, ouvrant la voie à au moins 3 autres hommes armés vêtus d'uniformes de la police. Une fusillade éclate au cœur de l'établissement, à l'intérieur du complexe qui comprend également la poste centrale et le bureau des statistiques. Travaillent plus de 2000 employés, des dizaines trouvent refuge dans des salles sécurisées, des bunkers. D'autres parviennent à se cacher jusqu'à l'intervention de la CRU 222, l'équivalent du raid français qui, appuyé par les commandos de la police afghane, parviennent à abattre les assaillants. Leur intervention a duré près de 6 heures. Les tirs retentissaient tout au long de l'après-midi dans le centre de Kaboul. Alors que les forces de sécurité évacuaient le personnel des différents locaux. Cette attaque intervient après une période de calme relatif à Kaboul. Les discussions bilatérales qui ont lieu depuis plusieurs mois entre les États-Unis et les talibans suscitent de l'espoir au sein de la population, même si ces pourparlers sont marqués par des tensions. La réunion qui devait avoir lieu hier entre les talibans et une délégation afghane a par exemple été annulée. Les talibans ont par ailleurs annoncé il y a quelques jours le début de leur traditionnelle offensive de printemps qui marque l'intensité des combats. Sur le champ de bataille, il n'y a pas de pause, la guerre continue et à la menace des talibans s'ajoute celle du groupe État islamique.
Il est 18h06, vous écoutez le journal de France Culture. Depuis le 17 novembre dernier, les Gilets jaunes défilent et demandent réparation eu égard aux injustices fiscales et aux inégalités sociales chroniques dont ils se disent victimes. 23e samedi de mobilisation avec des milliers de fouilles et d'arrestations préventives à l'actif des 60 000 policiers déployés, des centres-villes interdits à la manifestation et somme toute des cortèges calmes. Yann Gallic, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes comme convenu en direct de la place de la République à Paris. Yann, quelle tonalité pour cette manifestation parisienne ?
Eh bien, pour l'instant, la place de la République est complètement encerclée par les forces de l'ordre qui se sont déployées en masse et qui bloquent tous les accès dans une atmosphère qui s'est quelque peu tendue au cours de la journée et qui est maintenant chargée de gaz lacrymogène. Les gendarmes et les CRS ont utilisé des canons à eau pour tenter de disperser tous les gilets jaunes qui ont convergé vers la place de la République dans un calme relatif et qui, pour l'instant, n'ont pas l'intention de quitter les lieux. Nous avons assisté à des arrestations. Station très musclée ici. Près de 190 personnes ont déjà été interpellées aujourd'hui dans la capitale avec plus de 17 500 contrôles préventifs. C'est énorme. Des manifestants ont brisé quelques vitrines de magasins sur cette place de la République avec quelques échauffourées le long du parcours de la manifestation. Tout de même, des scooters, des poubelles carbonisées, des barricades en feu qui ont obligé les pompiers à intervenir à plusieurs reprises. Du côté des gilets jaunes, nous avons vu quelques blessés à la tête et au visage, sans savoir quelle est la gravité de ces blessures, mais pas de gros dégâts à déplorer pour l'instant. Le plus dur maintenant, ce sera d'évacuer la place de la République où sont encore rassemblés des centaines de manifestants.
Merci à vous, Yann Gallic et Yves Lehors, place de la République à Paris. On referme cette édition avec Johnny Cash au Capitole. Oui, Johnny Cash au Capitole pour offrir un autre visage à l'Arkansas furieusement ségrégationniste. C'est dans l'air du temps aux États-Unis. Johnny Cash, perle de la country et du folk, que prend en effet ses quartiers au Congrès, accompagné de la journaliste afro-américaine Daisy Bates. Tous deux donnent congé à deux figures des heures sombres. Washington, Gregory Phillips.
Hello, I'm Johnny Cash.
L'homme en noir, le man in black, qui pendant près d'un demi-siècle a marqué de son empreinte la musique populaire américaine, aura donc bientôt une statue à son image dans ce Statuary Hall qui, au cœur du Capitole, met à l'honneur les héros américains. L'Arkansas vient en effet de décider de remplacer ces deux statues actuelles. La première représentait le gouverneur de cet état du Sud qui, au début du XXe siècle, était un fervent défenseur de la ségrégation raciale. L'autre statue représentait un avocat confédéré. Johnny Cash, mort en 2003 à Nashville, va donc rejoindre ce lieu hautement symbolique, lui dont la vie fut chaotique, toxicomane, idole des détenus et des voyous, puis sur la voie de la rédemption à la fin de sa vie. L'autre nouvelle statue représentera la journaliste afro-américaine Daisy Bates, qui, à la fin des années 50, s'était battue pour que 9 élèves noirs puissent intégrer le lycée de Little Rock, ségrégationniste. Cette double décision du Sénat de l'Arkansas fait écho à ce débat virulent qui agite les États-Unis depuis plusieurs mois. Faut-il ou non retirer les statues des généraux confédérés et pro-esclavagistes qu'on voit encore un peu partout dans le sud du pays?
Deux mots de la météo de demain dimanche, temps instable sur la moitié sud et solidement printanier au nord de la Loire. Édition préparée avec Brice Garcia, à la technique Audrey Guélil.